Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un cas assez étonnant. Honoré de Balzac, ce géant de notre littérature, qui se retrouve épinglé par l'Église catholique.
Oui, par le fameux index des livres interdits.
Exactement. Et ce qui est piquant, c'est que Balzac, il se présentait parfois comme monarchiste, catholique.
Il disait même écrire pour défendre ses idées.
Précisément. Alors comment comprendre qu'il soit condamné par l'institution qu'il affirmait en quelque sorte vouloir servir? C'est ça qu'on va essayer de démêler.
Notre objectif, c'est ça. Comprendre les raisons de cette mise à l'index, comment ça s'est passé et puis quelles conséquences ça a eu en s'appuyant sur l'analyse Balzac face à l'index.
D'accord.
Alors peut-être juste un mot de contexte. L'index, faut voir ça comme un outil de l'Église pour protéger la foi, les mœurs.
Surtout avec l'imprimerie qui se développait.
Voilà. Et au XIXe siècle, en France, Rome était particulièrement attentive sur le plan doctrinal. C'est ce climat-là, quoi.
Bon, alors allons-y. Le début, c'est 1841, c'est ça? Un premier décret qui vise des livres précis.
Oui, 16 septembre 1841. On trouve le Lys dans la vallée, la physiologie du mariage, les contes drôlatiques.
Des œuvres jugées un peu osées.
Lascives.
C'est ça, lascives, même subversives. Et ça ne s'arrête pas là. Dès 1842, il y a deux autres décrets qui rallongent la viste.
Ah oui. Et puis, le gros morceau, si l'on peut dire, c'est 1864. Là, c'est un décret qui frappe toute la comédie humaine en bloc.
Toute la comédie humaine?
Oui, sous la formule latine « omnes fabulae amatoria ».«
Omnes fabulae amatoria ». Carrément, tous les récits amoureux, c'est incroyablement large comme condamnation, ça.
Tout à fait. Rome voulait vraiment ériger une sorte de digue morale, comme le dit l'analyse.
Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui, au fond, posait tant problème dans ces récits? C'était quoi les reproches?
C'est là que ça devient assez fascinant. Il y a plusieurs raisons qui s'entremêlent.
Oui.
D'abord, ce que Rome percevait comme une description, disons, complaisante de l'adultère. Pensez à la femme de 30 ans ou la cousine bête.
Des classiques.
Ensuite, il y a cette esthétique des passions humaines, ce réalisme cru, vu par les censeurs comme une occasion de chute, de péché pour le lecteur.
Même si ce n'était pas encore Zola et le naturalisme pur et dur.
Non, mais la tendance était là, perçue comme dangereuse. Ajoutez à ça le langage parfois grivois, surtout dans les contes drôlatiques.
D'accord.
Et puis, plus profondément, peut-être une vision du monde qui semblait fataliste, comme si elle niait la providence divine, le libre arbitre.
Et tout ça, ça tombait sous le coup de règles précises de l'Église.
Oui, oui. Il y avait des textes comme la bulle Sollicita ac provida de 1753, ou plus tard l'encyclique Officiorum amunerum de 1897, qui classait les livres contre bonos mors.
Contre les bonnes mères.
Exactement.
C'est fou quand même. Parce que Balzac, lui, dans son avant-propos de 1842, il avait écrit noir sur blanc qu'il travaillait à la lueur de deux vérités éternelles, la religion, la monarchie.
Oui.
Ça n'a servi à rien. Les censeurs n'ont pas lu ou ils n'y ont pas cru.
Disons que ça n'a pas suffi. L'analyse suggère que les censeurs romains se focalisaient plus sur l'effet potentiel de l'œuvre sur l'âme du lecteur que sur les intentions affichées par l'auteur.
D'accord. Le résultat primait sur l'intention.
En quelque sorte. Et Balzac, il n'était pas seul, hein. Flaubert avec Madame Bovary, évidemment.
L'adultère encore.
Zola, pour son naturalisme jugé matérialiste, là c'est carrément toute son œuvre, Opéra Omnia. Hugo, aussi, pour Les Misérables.
Condamné la même année que la Comédie humaine, en 1864.
Oui. Et puis Renan, avec sa vie de Jésus qui niait la divinité du Christ, la liste est longue.
Et pendant ce temps, un auteur comme Léon Blois, pourtant hyper virulent.
Lui n'est pas inquiété. Peut-être parce que sa foi, même si elle était critique, n'était pas remise en cause fondamentalement. Et puis, il y a un détail prosaïque.
Lequel?
La source note que beaucoup de censeurs romains maîtrisaient bien le français. Ce qui explique aussi cette forte présence française à l'index.
Logique. Alors, revenons à Balzac. Concrètement, cette mise à l'index, ça a eu quel impact réel? Est-ce que les gens ont arrêté de le lire?
C'est là qu'il faut nuancer. Il y a la théorie. Et puis, il y a la pratique.
C'est-à-dire?
En théorie, lire ou même posséder un livre mis à l'index sans permission, c'était considéré comme un péché grave. Le droit canon de 1917 va même le confirmer.
Ah oui, pas même.
Mais en pratique, surtout en France et particulièrement après 1850, disons que l'application était limitée.
On trouvait Balzac facilement.
Oui, Balzac continuait à circuler, à être lu, parfois dans des éditions un peu expurgées pour les écoles ou les jeunes filles. Mais il était là. La condamnation, c'était surtout un avertissement de principe, une prise de position morale de Rome.
D'accord. Un message fort, mais pas une interdiction totalement efficace sur le terrain.
C'est un peu ça.
Et cette histoire, elle a une fin officielle. L'index lui-même disparaît en 1966.
Oui, par une notification du cardinal Ottaviani au nom de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Mais c'est intéressant, la notification précisait que l'index gardait une valeur morale.
Ah, comment ça ?
En gros, on passait d'une interdiction formelle à un appel à la conscience mûre des fidèles. On faisait confiance à la responsabilité de chacun.
D'accord. Bon, aujourd'hui, évidemment, on lit Balzac librement, c'est un pilier de la culture. Mais cette histoire, elle soulève quand même une question intéressante que pointe l'analyse.
Oui. Est-ce que Rome, à l'époque, jugeait l'esthétique, ce réalisme parfois cru, ou est-ce que c'était vraiment la vision du monde, la morale véhiculée qui posait problème ? C'est toute la question, hein. Cette tension entre l'art qui veut montrer le réel, même ses côtés sombres, et une institution qui a pour mission de guider et protéger les consciences.
C'est une tension qui existe toujours, d'une certaine manière.
Absolument. Et la source se termine d'ailleurs sur une note un peu provocatrice, en évoquant l'index comme une possible sauvegarde.
Une sauvegarde ?
Oui, en opposant une civilisation ordonnée, où il y aurait des repères, à une société de toute l'illicité, où tout serait permis.
Et ça nous amène à une réflexion finale pour nous, aujourd'hui, peut-être. Sans cette barrière formelle de l'index, qu'est-ce qui peut ou doit guider notre lecture face à des œuvres puissantes, parfois dérangeantes ? Comment on navigue ça sur le plan moral ? La question reste ouverte.